Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à celles et ceux qui se lèvent tôt avec le réveil culturel à la radio et à tous les autres qui nous écoutent quand ils veulent, en ligne ou en podcast disponible sur franceculture.fr. Aujourd'hui, je compte vous faire aimer une bande dessinée éditée chez Stankis. Il s'agit de Sissi, une femme au-delà du conte de fées par Georgia Maras, mon invitée ce matin.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Pour le 8 mars, journée donc internationale des femmes, pour reprendre l'appellation officielle de l'ONU, parlons de Sissi, l'icône du 19e siècle. Oui, la Sissi des vacances d'hiver passées devant la télé. La Sissi impératrice interprétée par Romy Schneider dans les films à l'eau de rose d'Ernst Marischka tournés dans les années 50. Sissi ou la vie tumultueuse d'Elisabeth de Bavière. Dans sa bande dessinée, Georgia Maras nous propose de mieux connaître Sissi, de ses 17 ans à ses 60 ans, de son mariage à son assassinat, les moments de bonheur et les drames les plus marquants. Sissi dans tous ses états. Sissi, l'épouse, la mère, l'impératrice d'Autriche, la militante, la femme. Sissi, une femme au-delà du conte de fées, donc pour reprendre le titre de votre bande dessinée, Georgia Maras. Merci d'être venue d'Angoulême où vous habitez.
Oui, merci à vous de m'avoir invitée.
Alors, pourquoi avoir choisi Sissi?
Parce qu'en fait, il y a une quinzaine d'années, j'avais vu des documentaires sur la vie de Sissi. Et ça m'a touché beaucoup de savoir que sa vie était vraiment totalement différente des films que j'avais connus quand j'étais petite. Et donc j'ai eu vraiment envie de raconter la vie de cette femme parce que aujourd'hui elle est encore connue comme la princesse des contes des fées alors qu'elle était déjà pas princesse, voilà. Et princesse des contes des fées, un peu un personnage un peu tout mignon, voilà. Alors que c'était un personnage très crucial dans l'histoire du 19e siècle.
Georgia Maras, est-ce que vous vous êtes retrouvée dans les combats de Sissi?
Oui. Parce que même si je raconte l'histoire d'une femme du 19e siècle, en plus une impératrice, donc c'est peut-être la chose la plus loin de moi, de ma vie, de jeune femme
italienne vivant en France.
Voilà, j'ai trouvé une personne coincée dans un endroit, dans une société qu'elle pouvait pas vraiment être libre, non? Et combien de fois nous on se sent pas libre par des règles de société, par rapport à la famille, par rapport à des idées qu'ils ont.
Quand vous dites nous, c'est les femmes? Nous les femmes?
Oui, nous les femmes. Moi je pense à les femmes, mais peut-être les hommes aussi. Hein. Moi je dis femmes parce que je vis en tant d'encore d'une femme. Mais après, il y a des hommes aussi. Mais des fois, on se sent coincé dans des situations, des idées qu'on a de nous. Et puis, on n'arrive pas à s'en sortir. Par exemple, le fait que moi, je viens d'une ville assez petite, il y a beaucoup d'expectatives du fait d'être, par exemple...
De quelle ville?
De Gênes. Moi, je viens de Gênes, Genova. C'est plus grand d'Angoulême, mais quand même, des fois, j'ai senti autour de moi une pression pour moi, enfin, de me marier, avoir des enfants, des choses comme ça. Et tu te dis, mais c'est les 2000... À l'époque, c'était 2015, 2016. Je dois encore subir toutes ces pressions-là, alors que, par exemple, oui. Donc, par exemple, cette chose-là, ça m'interpellait beaucoup. Enfin, aussi, je voyais que Sissi, elle voyageait, par exemple, beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'étais assez étonnée par le fait qu'elle a réussi, en quelque manière, à se détacher de son rôle d'impératrice, femme et mère. Au 19e siècle, c'était quelque chose d'assez rare. Elle voyageait seule. Donc, enfin, seule, bien sûr, avec toute la suite, etc. Mais sans mari, sans plein de choses. Donc, c'était assez intéressant.
Est-ce qu'elle était féministe pour vous, Sissi?
Je pense que c'est peut-être un concept un peu... C'était un peu trop tôt pour se dire vraiment féministe. Mais elle voulait sa liberté. Donc, d'un côté, on peut dire aujourd'hui qu'elle était féministe. Mais
au-delà de sa liberté, elle voulait aussi jouer un rôle politique.
Elle voulait avoir un rôle. Elle voulait avoir un rôle politique. Mais en fait, elle s'est, enfin, il y avait Franz et tout l'entourage de la cour de Vienne qui ne la laissait pas vraiment avoir une voix politique. La seule chose qu'elle a vraiment réussi à faire, c'est d'avoir une voix dans la bataille pour l'Hongrie, enfin, de la cause hongroise. Donc cette chose-là, vraiment, elle a réussi à la faire. Et aussi, par exemple, des choix genre par rapport à l'éducation des fils, qui est donc choisir des précepteurs par rapport à leur culture, aux habiletés, pas par rapport au rang. Donc ça, c'est par exemple, c'était quelque chose d'important.
Georgia Maras, dans votre bande dessinée, Une femme au-delà du conte de fées, vous ne gommez pas tout le côté glamour qu'on a de Sissi, oui. À travers les films interprétés par Romy Schneider. Mmh. C'est là, hein, vous la représentez, même si elle ne ressemble pas dans votre bande dessinée à Romy Schneider, c'est une très jolie femme. Vous montrez à quel point c'est important, comment aussi elle a pu jouer de cet atout, mais vous allez aussi raconter ces moments de doute, ces moments de chagrin, tout ce qu'on ne raconte pas justement dans un conte de fées.
Oui, et une autre chose que c'est assez important, c'est les liens avec, par exemple, l'image, la beauté. Mmh. En fait, elle était une personne assez simple et timide et réservée, mais elle a compris que pour une femme, le seul moyen pour, à l'époque, mais peut-être des fois aussi aujourd'hui, le seul moyen pour avoir une voix, c'était d'être belle, voilà. Et donc, elle a travaillé pour construire un masque qu'elle pouvait porter partout et porter ses personnages partout. Et c'est intéressant.
Et de contrôler son image.
Parce qu'à contrôler son image.
Quand elle commence à vieillir, elle interdit à ce qu'on vienne la peindre.
Oui, et même des photos. Il n'y a pas des photos, sauf vraiment des photos de très loin avec quand même un petit parapluie, on voit, donc on comprend pas trop comment elle est. Mais on n'a pas des photos d'elle après les 35 ans.
Donc. Est-ce qu'elle est progressiste, Sissi, pour vous, Georgia Maras?
Oui, elle a des idées assez libérales, mais... Et c'est ça qui est intéressant pour moi. C'est quand même un personnage qui n'est pas tout à fait... Il est encore un personnage de l'époque, de cette époque-là. Donc, elle est grandie dans un milieu aristocratique. Elle a des idées très libérales et ouvertes, mais en même temps, elle dénie pas les origines, elle dénie pas un certain privilège qu'elle a, parce que c'est aussi confortable. Voilà, c'est sa manière de vivre. Donc, aussi, cette chose-là, c'est... pour moi, intéressant de voir une personne qui a des idées, qu'elle pourrait faire beaucoup, beaucoup de choses, mais quand même, elle reste. Enfin, elle va pas jusqu'au bout. Elle aurait pu faire beaucoup, beaucoup d'autres choses.
Vous avez longtemps enquêté sur Sissi?
Oui, beaucoup. En fait, j'ai commencé à écrire cette histoire il y a une dizaine d'années. J'ai voyagé beaucoup, j'ai vu tous les endroits où elle a vécu. J'ai même vécu en Autriche dans une résidence aussi d'artiste pour faire des recherches. Et donc, je suis en Autriche, en Hongrie, en Allemagne, en Suisse. J'ai pris beaucoup, beaucoup de photos et j'ai lu beaucoup de documents.
Elisabeth de Bavière ou Sissi, dans votre bande dessinée éditée par Stenkis, Georgia Maras affronte aussi les affres d'une mère, hein, parce que vous mettez sur le même plan, son engagement politique, son engagement en tant qu'impératrice d'Autriche, son envie de s'émanciper, de contourner toute cette pesanteur qui l'entourait, tout le protocole qu'elle a réussi plus ou moins à contourner, mais vous lui donnez la même importance quand il s'agit de sa vie de mère et aussi de sa vie de femme.
Oui. C'est intéressant. Il y a un passage dans les livres où il y a Andrassy, le comte Andrassy qui parle et qui lui dit, vous m'étonnez parce que chaque fois vous me montrez un nouveau côté de vous. Une fois je vous vois comme un athlète, une fois je vous vois comme un révolutionnaire, une fois comme une mère, une fois comme une impératrice. Qui êtes-vous? Et elle dit, non, je suis tout ça. Il faut pas m'encadrer dans une certaine chose parce qu'elle était tout ça.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Georgia Maras est mon invitée aujourd'hui pour parler de sa bande dessinée éditée chez Stankis. Sissi, une femme au-delà du conte de fées, on l'a dit, c'est plusieurs aspects de la femme d'Elisabeth de Bavière que vous réussissez à mettre dans ce récit, dans ce roman graphique, c'est-à-dire la Sissi, femme indépendante et même rebelle, on peut le dire, hein, puisque elle a refusé toutes les obligations protocolaires de la cour d'Autriche, entre autres parce qu'elle voulait se promener sans garde du corps, mais elle était aussi une vraie battante politique, c'est-à-dire qu'elle avait son ploi, elle influençait son mari, elle avait aussi des idées politiques, notamment concernant la Hongrie, en prenant des choix qui n'étaient pas populaires. C'est une femme qui compte par bien des aspects. Elle a été aussi une amoureuse, comme dans un roman d'amour, une mère très très impliquée, une femme qui contrôle son image. Ça, vous l'avez très bien expliqué dans votre roman graphique, Georgia Maras, cette femme qui, se sachant vieillir, va refuser d'être photographiée. Alors tout ça, ce sont les bons côtés. Mais alors, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que il y a aussi les côtés un peu plus, douteux, hein. C'est-à-dire, elle est aussi opportuniste, on peut le dire, Sissi, hein. Mm-hmm. Elle est aussi très libérale. Elle va même apparaître comme une opportuniste calculatrice en plaçant son argent là, dans des lieux très sûrs. Est-ce qu'au bout de cette enquête, au bout de votre roman graphique, Georgia Maras, vous avez changé d'avis sur Sissi?
Bien sûr, j'ai changé l'avis que j'avais par rapport au film, par rapport à l'image que j'avais toujours connue de Sissi. Avec les films de Romy Schneider. Mm-hmm. Et puis j'ai vu
réalisé par Ernst Marischka, donc.
Oui, voilà, les films de Marischka. Et puis, j'ai vu un documentaire. Moi, je suis très passionnée par l'histoire, donc je regarde énormément de documentaires. Et donc, j'ai découvert, quand j'avais une quinzaine d'années, ces documentaires sur la vie de Sissi. Ça m'avait vraiment, vraiment touchée. Et donc, c'est pour ça. Et il y a une autre chose que je voulais dire. Il y a un très beau film de Visconti qui s'appelle Ludwig.
Exactement.
Oui.
Alors, je voulais vous en parler.
En fait, dans ces films, Visconti, il décrit très très bien les Habsbourg. Je pense qu'il avait une sensibilité spéciale, une connaissance très profonde du milieu aristocratique et des lieux, de tout ça, des enjeux.
Et là, elle devient déjà ambiguë, la Sissi, chez Luchino Visconti.
Oui, oui. Mais c'est impressionnant de voir Romy Schneider jouer les mêmes rôles, mais elle est totalement différente. Ça m'a beaucoup effrayée, touchée, enfin je ne sais pas. C'était très intéressant de la voir avec cette autre lumière dans les yeux. Moi je pense que la Sissi de Visconti, c'est beaucoup plus proche de la Sissi que, enfin, réelle peut-être, ou celle que quand même j'ai voulu raconter.
Justement, est-ce que l'époque d'aujourd'hui compte beaucoup dans votre manière de jeter un regard sur cette époque de Sissi, sur le personnage de Sissi? Bon, parce que effectivement, les films d'Ernst Marischka, ce sont des films à l'eau de rose qu'on passe généralement les semaines de fête avec une Romy Schneider, on ne peut plus, et glamour. Mais on comprend peut-être cette attitude vis-à-vis de cette histoire. Les films ont été réalisés au milieu des années 50, c'est-à-dire le monde venait de subir une grande guerre. Donc tout ce qui était guerre fratricide est effectivement évacué des trois films tournés par Ernst Marischka. Ce n'est pas le cas dans les années 70, quand Luchino Visconti décide de reprendre l'histoire de Sissi. Et vous-même, Georgia Maras, pour faire cette bande dessinée, est-ce que vous avez été influencé par ce qui se dit, ce qui se fait, ce qui se sent aujourd'hui?
Oui, c'est inévitable. Enfin,
c'est ainsi que je l'ai lu, parce que d'une part parce que l'Europe est très présente en tant qu'Europe,
oui,
dans votre récit.
C'est vrai.
Et puis surtout, il y a ce côté, c'est quoi être une femme aujourd'hui? Quelle place les femmes ont dans le pouvoir aujourd'hui? Là, on est vraiment dans cette époque post-MeToo.
Oui, bien sûr. Moi, quand je m'intéresse à quelque sujet historique, je vois est-ce que ce sujet, cette thématique, ces personnages peuvent m'apporter quelque chose aujourd'hui, à moi? Est-ce que ça peut me parler? Voilà. Et donc, c'est comme ça, bien sûr, je ne suis pas une historienne, merci beaucoup. pour moi, ce qui compte, c'est de raconter. Mes histoires sont toujours un véhicule pour raconter quelque chose d'aujourd'hui, même si je parle du passé. Donc là, il y a beaucoup du présent, il y a beaucoup de ma vie personnelle, de la vie de gens qui m'entourent, de la société. Il y a toujours un peu ça, même si je parle d'autres choses.
Alors, vous avez décidé d'opter pour un graphisme très très simple, hein, c'est-à-dire il n'y a pas de cases éclatées, de double page, on reste dans un style plutôt classique, sans fioritures, tout en nuances, mais avec seulement deux couleurs, hein, c'est-à-dire le noir, blanc, gris et toutes les nuances du gris.
Oui, quelqu'un m'a dit que mon dessin est assez austère. Peut-être c'est vrai. Je pense que je voulais donner une idée de tout, enfin des décors, des costumes, de la réalité de l'époque, mais en essayant d'être essentiel et d'aller à l'essentiel. Donc l'important, c'est les récits. Donc pour moi, les dessins, c'est hyper important. Donner des atmosphères, c'est très intéressant, important. Mais après, l'important, c'est l'histoire. Donc j'essayais d'aller à l'essentiel, même si pour aller à l'essentiel, j'ai travaillé très durement pendant des années. Donc pour faire une page qui se rassemble tout simple, j'ai mis beaucoup de temps. Donc c'est un peu comme les ballerines qui ne montrent pas la douleur quand ils dansent très légèrement sur leur pointe, c'est la même chose.
Georgia Maras, il fallait parler un peu de votre parcours. Si, une femme au-delà du conte de fées, votre deuxième roman graphique ou deuxième bande dessinée. Vous avez déjà publié Munch avant Munch.
Oui.
Ça parle de quoi?
Ça parle de la vie d'Edvard Munch, les peintres norvégiens. Et en fait, ce livre-là a été publié avant en Italie, en 2014. Donc, c'est un bon moment. Et puis, il a été traduit par Stenkis en France. Et c'est toujours, c'était une commande parce qu'il y avait une expo à Gênes pour les 150 ans de la naissance de Munch. Et donc, mon éditeur m'avait dit, fais quelque chose sur Munch, un livre illustré, qu'est-ce que tu veux? T'as la liberté de faire tout ce que tu veux. Et puis, j'ai lu son journal, ses journaux intimes, et c'est super intéressant. Déjà, Munch, c'était un de mes peintres préférés, et c'était un de mes graveurs préférés, déjà. Donc, avoir l'opportunité de fouiller dans ces journaux, c'était génial, et j'ai découvert un personnage assez intéressant. Et drôle, un peu cynique, mais très drôle. Et aussi une réalité autour de lui vraiment intéressante. C'était l'époque de un peu de la bohème, mais en Norvège. Il y avait tout un débat sur l'amour libre, très intéressant et très moderne. Et j'étais étonnée d'entendre ces discours au 19e siècle en Norvège. Et puis il y avait tout, dans la bande dessinée, je raconte un peu son parcours depuis quand il décide de devenir peintre et donc de quitter ses études d'ingénieur. Donc vers 17 ans, plus ou moins. Et jusqu'à quand il commence à avoir un petit peu de succès. Son premier tableau va être acheté quand il a vers les 35 ans. Donc c'est vraiment les débuts. Donc c'est toute sa quête artistique et personnelle.
Et vous êtes retrouvé un peu dans cette quête?
Oui, parce que en tant que, je pense que quand tu essayes de devenir quelque chose, quand tu essayes de chercher ta voix, ça interpelle, je pense, tous les gens qui veut essayer de créer, qui sont dans les domaines artistiques, je pense. Donc, oui, je me suis retrouvée un peu.
Vous habitez depuis maintenant 4 ans à Angoulême, Georgia Maras. Quel est votre parcours, vous, l'italienne de Gênes? Comment êtes-vous arrivée à la bande dessinée?
J'ai toujours voulu faire de la bande dessinée dans ma vie, depuis, je pense, toujours. Donc,
depuis toujours, ça veut dire quoi?
Depuis quand j'étais toute petite, je faisais je dessinais tout le temps. Et il m'est donné à lire, même si je lisais pas le Mickey Mouse. J'ai regardé, j'étais très très fascinée. J'ai resté des heures à regarder les cases. Et j'ai regardé beaucoup de dessins animés. Et je disais, mais moi aussi, je veux créer des histoires comme ça qui me passionnent. Et je pense, j'avais peut-être 6 ans, un truc comme ça. Enfin, aussi, j'aimais beaucoup aussi l'histoire. Donc, pour un moment, j'étais un peu entre ça, et l'histoire, les dessins et l'écriture, etc. Et aussi les théâtres, parce que je faisais aussi beaucoup de théâtre. Et puis j'ai dit, si je fais de la bande dessinée, peut-être je peux mettre tout en même temps. Donc je fais jouer mes personnages au lieu de moi. Je fais, je dessine et je peux faire des recherches. C'est un métier, en fait, la bande dessinée et les romans graphiques, je pense que c'est un métier pour les curieux. Moi, je suis très curieuse et des fois, j'aime bien aborder des sujets variés et créer des histoires sur ces sujets qui m'intéressent, ça me permet de découvrir de nouvelles choses. Donc,
Et votre parcours de formation ?
Mon parcours de formation, j'ai fait le lycée artistique à Gênes. Donc, au lycée, en Italie, on peut déjà choisir plus ou moins qu'est-ce qu'on veut faire. Le lycée artistique, puis j'ai fait l'Académie des Beaux-Arts à Gênes. Mais je suis diplômée en graphic design, donc rien à voir. Et j'ai fait une année d'Erasmus à Paris. Et c'est là que j'ai, il y a une dizaine d'années, donc c'est là que j'ai appris un peu, je lisais énormément des bandes dessinées. Quand je suis rentrée à Paris 8, il y avait une communauté de gens qui faisaient fanzines et qui faisaient des tours de France avec les festivals. Donc, ils allaient au festival avec leur stand. Et là, j'ai vu la quantité de bandes dessinées qu'il y avait en France, la quantité de bandes dessinées, de romans graphiques, etc. C'était assez intéressant. Et je me suis dit, OK, je veux travailler en France et avoir l'opportunité de développer ce style-là de roman.
Voilà. Et donc, vous voilà à Angoulême. Dans la maison des auteurs d'abord ?
Oui, dans la maison des auteurs d'Angoulême. C'est une résidence internationale. Elle est pas très très connue, mais elle est paradoxalement très très connue à l'étranger. Il y a beaucoup de gens qui viennent vraiment de partout, de l'Amérique, de l'Inde, de Taïwan, et c'est un endroit vraiment magique où il y a vraiment entre une vingtaine, 25 ans des gens. Et
vous avez décidé, après ce cursus, de rester sur place à Angoulême?
Oui, pour l'instant, oui. Après, on verra. Je suis ouverte à toute possibilité que la vie peut m'offrir. Mais pour l'instant, je veux rester à Angoulême parce qu'il y a une belle communauté et d'artistes, auteurs. Pour l'instant, je veux développer ma carrière là-bas.
Votre prochaine bande dessinée aura aussi un fond historique?
Presque. En fait, la prochaine histoire que j'ai dans ma tête, j'en ai plusieurs, mais un des prochaines que je voudrais aborder, ça sera avec un scénariste, mais en me connaissant, on va les coécrire parce que j'aime beaucoup travailler dans l'histoire. Donc, on va coécrire cette histoire. Ça sera pendant les années 50-60 en Italie. Et c'est une histoire familiale où il y a des problèmes assez particuliers. C'est une famille avec des problèmes économiques et un des filles, elle est lesbienne. Donc cette chose crée beaucoup de problèmes dans la famille à l'époque. Et comme scénariste, il est toscan, il vient de la Toscane, il voulait un peu... il voulait situer l'histoire en Toscane pendant ces années-là. Mais moi, je suis de Gênes, mais je suis une fille d'immigrée, voilà. Et mes parents venaient du sud d'Italie. Mon père de la Sardaigne, c'est pas vraiment le sud, mais c'est Naïve, et ma mère de la Calabrie.
Immigrée de l'intérieur, quoi.
Oui, mais c'était c'était quand même un changement et la ville était très dure dans les, l'Italie, c'est un pays vraiment divisé à l'époque. Vraiment, j'ai regardé beaucoup de documentaires, d'interviews de sociologues. C'est frappant comme c'est le monde était différent. Mais même ma mère qui, elle a presque 60 ans maintenant, mais jusqu'à ses 6 ans, elle avait pas les chaussures. Juste pour dire comme elle était différente la vie. Elle habitait en campagne, c'était une vie vraiment très différente.
Pour terminer, Georgia Maras, une femme au-delà du conte de fées qui paraît chez Stenkis, est paru en Italie. Vous l'avez écrit en italien ou
non, non, je l'ai écrit en français.
Directement en français. Oui. Bravo.
Bah, merci.
Vous pouvez réécouter ce réveil culturel avec Georgia Maras en passant par franceculture.fr ou en passant par l'abonnement au podcast de l'émission. Une émission préparée avec Corinne Amar, réalisée par Vincent Abouchard, avec aujourd'hui à la prise de son Philippe Mercher. Bon 8 mars, Georgia Maras.
Et merci, bon 8 mars à tout le monde.